Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on oublie direct les monuments historiques et les petits circuits touristiques bien balisés. On part pour un véritable bout du monde, un endroit totalement isolé, avec un climat carrément rude, la Camargue. Et on va décortiquer une histoire assez fascinante, une chronique tellement ancrée dans ce paysage immense et sauvage qu'on a l'impression que la Terre elle-même avale ses propres réponses. Bref, c'est parti pour un voyage dans le temps et dans l'espace, là où la nature fait absolument ce qu'elle veut. Allez, on plonge là-dedans. Il faut d'abord planter le décor, parce qu'ici, la géographie physique, c'est presque le personnage principal de notre récit. Bauduc, c'est vraiment un espace brut, zéro artifice. C'est une plage immense, totalement plate, où l'horizon se perd à l'infini. Et c'est un endroit constamment battu par les éléments. Le vent, le sel, et une lumière qui peut être complètement aveuglante dictent toutes les règles. C'est un environnement magnifique, pour sûr, mais qui reste incroyablement implacable. Chapitre 1. Le bout du monde. Pour vraiment saisir l'ampleur du mystère qu'on va aborder, il faut remettre les compteurs à zéro et retourner dans les années 60. Parce que le contraste est juste vertigineux. De nos jours, Bauduc, on a tous en tête l'image de l'évasion sympa, les kitesurfers partout sur l'eau, les petits cabanons pittoresques, les longues pistes blanches pour y aller. Mais dans les années 60, c'était carrément une autre planète. L'accès y est un enfer. Sans vraie route, on devait s'aventurer sur des pistes incertaines. À la moindre petite pluie, c'était l'embourbement assuré pour tout véhicule. Et dès que le mistral soufflait, fiout, le sable balayait instantanément les traces. C'était une zone hyper sauvage et quasi inaccessible.
Du coup, on n'atterrissait pas sur cette plage par accident. Cette région, elle appartenait à une toute petite poignée d'initiés. Des pêcheurs, des gardiens, des douaniers qui faisaient leur ronde, quelques travailleurs saisonniers et parfois des gens venus chercher le silence absolu. C'était littéralement un monde parallèle, réservé à ceux qui connaissaient par cœur les marais cachés et les petits chemins introuvables sur les cartes. Bref, la présence humaine était rare, très discrète et toujours là pour une bonne raison.
Ce qui nous amène à la partie 2, une découverte sur le sable. C'est ici, au cœur de ce microcosme fermé, que notre récit bascule et que le mystère s'installe. Il faut imaginer la scène au petit matin. Dans cette lumière très rase qui étire les ombres à l'infini, des locaux repèrent un truc inhabituel, posé là, non loin des dunes. De loin, impossible de distinguer les contours. C'est juste une forme étrange qui casse complètement la ligne parfaite et régulière de la plage. Et le plus dingue, c'est que l'atmosphère est déjà lourde, car la nature est en plein travail pour effacer les indices. Le vent est infatigable, le sable vole, se dépose et commence inexorablement à enterrer ce paquet mystérieux que la mer a recraché pendant la nuit. C'est vraiment une course contre la montre. La plage essaye activement de reprendre son bien.
Puis, en s'approchant, c'est l'évidence. Et le choc, c'est le corps d'un homme. Mais l'étrangeté de l'affaire, c'est le vide absolu autour de lui. Il n'y a zéro papier sur lui, aucun objet pour lui donner un nom, aucune barque retournée à l'horizon. Et, au milieu de ce désert de sable, absolument aucun témoin. Juste une présence anonyme, sans la moindre explication, échouée au bout du monde.
Ce qui nous propulse dans notre partie 3, l'intervention impossible. Face à un truc pareil, la logique voudrait qu'une enquête rapide démarre sur les chapeaux de roue, non ? Sauf qu'on est à Bauduc, et ça va virer au cauchemar logistique.
Regardons un peu la chronologie de cette journée. C'est juste impitoyable. La nuit, la mer dépose l'inconnu. Au petit matin, on le trouve. Mais il faut aller prévenir les autorités, ce qui prend un temps fou. Arrivé en fin de matinée, les éléments ont déjà commencé à altérer la scène à cause du vent. Et quand les gendarmes se mettent enfin en route l'après-midi, ils galèrent tellement contre la boue, les marais et les pistes effacées que l'environnement se dresse comme un mur massif contre l'enquête avant même qu'ils n'arrivent sur place.
On passe donc logiquement à la partie 4, un mystère sans réponse. Parce qu'une fois sur place, c'est l'impasse totale. Les enquêteurs se heurtent à un mur de silence. Personne ne connaît cet homme, du coup, les théories vont bon train. La première idée, la plus naturelle, un drame maritime. Un marin tombé par-dessus bord loin des côtes, dont le corps aurait dérivé avec les courants de la Méditerranée, pour finir sa course ici. Une simple mais tragique fatalité. Ou alors, la piste locale, un travailleur saisonnier. Ces gars-là allaient et venaient, souvent seuls. Est-ce qu'un homme aurait pu disparaître dans les salins sans que personne ne s'en rende compte ou ne prenne la peine d'alerter les autorités?
Ensuite, on a la piste psychologique. L'isolement extrême, ça attire. Est-ce que cet homme aurait marché de son plein gré jusqu'à cet endroit désolé pour y trouver une fin solitaire, attiré par ce vide immense?
Et puis, bien sûr, la théorie plus sombre, un bon vieux règlement de compte. Dans cette Camargue secrète des années 60 où on sait fermer les yeux, c'est carrément l'endroit idéal pour faire disparaître quelqu'un sans laisser aucune trace.
Ce qui est vraiment intéressant avec cette citation, c'est qu'elle résume tout. Il y a des faits divers qui marquent par leur violence, et il y en a d'autres qui marquent par leur silence. Le vrai impact de cette histoire, c'est pas l'horreur visuelle.
c'est ce silence absolu. Un silence tellement lourd qu'il a gravé cette affaire dans l'imaginaire de toute la région, bien plus que si l'affaire avait été résolue en 2 jours.
Ce qui nous amène à notre dernier chapitre, la mémoire de la mer. Car au-delà du fait divers en lui-même, ça nous révèle l'ADN de ce territoire unique.
C'est la mécanique implacable de la nature en pleine action. Regardez bien. 1. Le sable s'occupe d'effacer les empreintes physiques. 2. Le vent brouille les pistes. Et 3. La mer, la vraie patronne ici, dépose ses mystères avant de reprendre ses droits et de transformer la côte. C'est la garantie absolue que la vérité reste introuvable.
Et ça, figurez-vous que ça redéfinit totalement notre notion du patrimoine. Le patrimoine de la Camargue, ce ne sont pas seulement ses belles arènes ou ses phares. Ce sont aussi des récits incomplets, des légendes murmurées au coin du feu et un respect immense pour un paysage qui refuse catégoriquement de cracher le morceau.
La survie de cette histoire nous dit tout sur cette beauté sauvage de la Camargue d'autrefois. Une terre rude, libre, totalement insoumise, où la mer s'amuse à écrire le début des histoires, sans jamais, au grand jamais, s'embêter à en rédiger la fin.
Alors, on en vient forcément à se poser la question. Sur cette étendue immense, si la mer a déjà recraché de tels secrets silencieux, qu'est-ce que ce paysage de fou dissimule encore sous ses dunes et dans ses eaux opaques ? C'est une pensée assez vertigineuse pour clore cette exploration. La nature garde jalousement ses mystères, c'est clair. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.